Ce travail théorique, c'est un travail que j'ai fait avec Sébastien Villemot, dont je vous résume ici brièvement les principaux points. Donc, c'est un modèle théorique très simple qui va essayer de modéliser le risque de défaut et comment ce risque de défaut peut être éventuellement nourri par un problème de panique des marchés, un problème de crise autoréalisatrice, et à quelles conditions ces crises autoréalisatrices sont possibles et comment les pays peuvent y réagir. Alors, bon, très brièvement, là je vous présente une version simplissime du modèle. C'est un modèle dans lequel la production est exogène, c'est une variable aléatoire. Elle est exogène sauf dans les moments de défaut, où le coût sur la croissance du défaut sera modélisé de manière endogène et un peu ad hoc, puisque c'est un peu ça le sujet. Le risque d'ajustement lui-même provoque une récession. Je vais le modéliser tout à l'heure d'une manière un petit peu artificielle, mais qui sera, je crois, fidèle à l'idée de la discussion que je viens de commencer. Donc la production elle-même, elle est tout simplement un processus markovien. Le taux de croissance est lui-même un processus IID, et à chaque période qui est bornée, et à chaque période, la production est dans des bornes Q minimum et Q maximum, et se balade à l'intérieur de ça. Donc les marchés financiers, a priori, sont caractérisés par un taux d'intérêt sans risque, petit r, et les prêteurs sont neutres au risque, donc sont prêts à faire toute transaction financière qui leur apporte en moyenne un rendement petit r. J'appelle DT la dette qui vient à échéance, le stock de dette qui est dû, et qui inclut le poids des intérêts qui est payé par les débiteurs. Je suppose que cette dette est à court terme, elle est donc refinancée à chaque période. Je dirai quelques mots sur la modification que peut introduire des maturités plus longues que le court terme. Et j'appelle LT les crédits nouveaux qui sont donc accordés chaque année au pays. Donc LT moins DT, c'est le supplément de ressources qui est reçu des marchés financiers par le pays. DT moins LT, c'est le remboursement net qui doit être fait, combien je dois, combien je reçois, la différence doit être payée à partir des excédents budgétaires du pays. Et donc, comme ici, il n'y a pas d'investissement, c'est très simple. À chaque période, la consommation, c'est la production observée, plus les nouveaux crédits que le pays peut recevoir, moins DT, la dette qui doit être remboursée. Alors, je suppose que les pays peuvent faire défaut, et peuvent décider de ne pas rembourser leur dette. Alors, il faut qu'il y ait un certain nombre de pénalités qui s'en suivent, sinon on finirait toujours, ça a été démontré par Bülow et Rogoff, par faire défaut à un moment ou à un autre. Donc, je suppose qu'il y a un coût à faire défaut. Ce coût, il est de trois natures. La première, c'est que quand on fait défaut, il y a une crise économique et que ça produit une perte de production, une perte de richesse. Et ici, je le modélise très simplement. Je suppose que dès qu'un pays a fait défaut, sa production est réduite par un facteur 1 moins mu. Donc la production après défaut suit un chemin, bon ici, parallèle à la production pré-défaut, avec un facteur mu d'écart entre les deux. Deuxième coût, donc il y a un coût d'efficience de production. Deuxième coût, le pays perd l'accès au marché financier. C'est-à-dire, après qu'il a fait défaut, il ne retourne pas le lendemain matin faire appel au marché financier. Et je suppose ici, c'est évidemment très, très simplifié, que les pays sont jusqu'à la nuit des temps soumis à l'autarcie financière. Évidemment, ça ne changerait rien de dire que le retrait des marchés financiers ne dure que 4, 5 ou 10 ans. Bon, ce qui compte, c'est que le lendemain matin, ils ne puissent pas revenir sur les marchés financiers dans le raisonnement que je vais faire. Le troisième coût, bon, ça c'est le plus simple, c'est que même après le défaut, les créanciers peuvent obtenir une réparation partielle en saisissant différents actifs, en faisant des accords avec le pays. Bon, éventuellement, ce troisième coût, je le fixerai à zéro, mais c'est important pour le raisonnement. Donc, j'appelle lambda tilde T, la taxe que, j'appelle ça une taxe, que les marchés financiers, il y a un S de trop, que les marchés financiers peuvent prélever après le défaut. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, on a un jeu après le défaut, Q tilde DT, c'est la production après le défaut, on a un jeu à somme nulle entre les créanciers qui peuvent récupérer quelque chose, lambda tilde T, Q tilde DT, et puis le pays qui est soumis ensuite à l'autarcie financière. Évidemment, lorsque lambda égale 1 et lorsque donc les créanciers peuvent récupérer tout ce que le produit paye après, on fera évidemment jamais défaut ici. Alors, le défaut lui-même a lieu dans les mauvais états de la nature, c'est-à-dire que lorsque la production est faible par rapport à un certain niveau, le pays n'a pas assez de ressources pour honorer ses dettes et donc se met à faire défaut. Donc j'appelle pi la probabilité de défaut, c'est la distribution q plus petit que q étoile qui me détermine ce seuil de défaut. Et voilà, ce qui compte ici, c'est la dernière équation, la deuxième équation. Les créanciers, donc comprenons bien ce qui se passe ici, les créanciers sont prêts à vous faire un nouveau crédit LT, pourvu qu'en moyenne, il soit remboursé avec un taux R d'actualisation en moyenne. Donc, ils sont prêts à vous prêter LT facteur de 1 plus R. Et qu'est-ce qu'ils ont en échange? Ils ont, dans les bons états de la nature, ceux qui se produisent avec une probabilité pi t plus 1 à la période suivante, dans les bons états de la nature, ils récupèrent dt plus 1, la totalité de la dette que contractuellement vous êtes engagé à payer. Et puis, avec une probabilité pi t plus 1, la production est en deçà du seuil critique où vous êtes d'accord pour rembourser votre dette. Et à ce moment-là, les créanciers récupèrent quelque chose, moins que ce qu'on leur avait écrit. Et ce quelque chose, ben, c'est une taxe sur la production future, dont la valeur actualisée est écrite ici vt plus 1. Alors, il y a, je le dis tout de suite, parce que je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans tous les détails, un distinguo théorique très important qui va apparaître dans la suite. C'est que, selon les cas, les banquiers vont subir une discontinuité au moment du défaut. C'est-à-dire que dans certains cas, lorsque notamment mu va être plus petit que 1, les créanciers, juste après le défaut, vont recevoir moins que juste avant le défaut. C'est-à-dire que la valeur dt plus 1, lorsque qt plus 1 est au-dessus du seuil critique, ben, ça sera plein, et en deçà, ça sera moins que ce seuil. Donc il y aura une discontinuité éventuelle. Les cas de rééchelonnement efficace de la dette, c'est les cas où on peut s'entendre pour réduire le montant de la dette sans provoquer le défaut. Donc je ne vais pas tout remodéliser ici, mais pensez mu égale 1, c'est-à-dire pensez mu égale 1 comme un cas dans lequel on évite le défaut et on s'entend pour récupérer moins que ce qui est écrit, mais d'une manière qui évite la panique qui accompagne le défaut. À ce moment-là, on sera dans un rééchelonnement de la dette, on va dire réussi, au sens où le passage de dt plus 1 à vt plus 1, le passage du repaiement entier au paiement conditionné aux ressources du pays, se fait de manière continue, se fait sans crise. Vous allez voir réapparaître ce terme, et je le signale tout de suite au début. Alors, comment est-ce qu'on passe du montant dt plus 1 que vous engagez à rembourser l'année prochaine et le montant LT qu'on vous prête aujourd'hui? Ben, c'est la première équation qui vous le dit. Gamma, c'est le terme, lisez-le tout de suite, qui mesure cette discontinuité dont je viens de parler. C'est-à-dire l'écart entre combien vous récupérez en temps normal, dt plus 1, et combien vous récupérez juste après le défaut, juste au seuil. Quand gamma égale 0, le rééchelonnement de la dette se fait bien. Les créanciers ne perdent rien, sont capables de s'entendre et permettent au pays d'éviter la crise dont je viens de parler, permettent d'éviter le coût mu. À ce moment-là, la relation numéro 1, elle est très simple, c'est on est prêt à vous payer l'équivalent de l'inverse du taux d'intérêt ajusté pour le risque, c'est-à-dire combien vous allez récupérer en moyenne, le terme gamma égale 0. Quand gamma est positif, ben, on vous prête moins, parce qu'on sait qu'en vous prêtant un peu plus, vous déclenchez un risque de défaut qui, pour le créancier, va se traduire par une perte en capital au moment critique où se produit la crise. Bon, le modèle après se déroule très simplement. Le choix du défaut, il est pris par considération de tout ce qui va se passer jusqu'à la nuit des temps. Donc là, je suppose que le pays est gouverné par un gouvernement, un agent représentatif, peu importe, qui maximise tout ce qui va se passer jusqu'à la nuit des temps. Lorsque le pays fait défaut, bah, c'est très simple. Cette fonction d'utilité, il suffit de remplacer C par la valeur de la consommation après défaut, puisqu'on est à l'autarcie financière, on sait qu'on subit une taxe qui est elle-même un peu aléatoire, donc on est parfaitement capable d'apprécier quel est le niveau d'utilité dynamique intertemporelle auquel on a accès lorsqu'on a fait défaut. Et après, la question, eh bien, elle est de comparer ce qui se passe si je ne fais pas défaut aujourd'hui, tout en gardant la possibilité de faire défaut demain. Ça, c'est l'équation JD de DT et QT, c'est combien je gagne aujourd'hui en acceptant d'honorer ma dette DT, en allant sur les marchés financiers pour gagner LT et en me gardant la possibilité de faire défaut demain, qu'est-ce que j'obtiens relativement à faire défaut tout de suite. Et c'est cette comparaison entre ces deux niveaux d'utilité qui va déterminer si je fais défaut ou pas. Je suppose que l'utilité est isoélastique et au bout du compte, bon, c'était un petit peu un grand détour pour arriver à ça, au bout du compte, je ferai défaut si et seulement si le niveau petit dt, regardez la dernière équation, petit dt qui est le ratio dette sur PIB, eh bien, est plus grand ou plus petit qu'un certain seuil. Donc ici, j'ai un modèle très simple dans lequel le pays s'endette et choisit tactiquement, en quelque sorte, de faire défaut lorsque le ratio dette sur PIB est supérieur à un seuil qui est lui-même stochastique puisqu'il dépend de l'idée que le pays se fait des pénalités, lambda tilde t, qu'il va subir en cas de défaut. Alors, tout ça, eh bien, ça nous amène à quoi comme résultat? Alors, Là, j'écris les équations du premier ordre qui vont déterminer le choix du pays entre consommer aujourd'hui et consommer demain, en supposant qu'il fasse défaut. Plaçons-nous tout de suite dans le cas où gamma égale zéro, c'est-à-dire gamma égale zéro, c'est le cas où la restructuration de la dette est efficiente. Alors ici, on a un résultat très important, très intéressant, c'est ce que j'appelle un équilibre pinglossien. C'est une formule qui avait été prise par Krugman pour caractériser déjà ce type de crise de dette, et qui dit quoi? Q, c'est l'utilité marginale de la richesse ou de la consommation. Et l'équation d'Euler que vous voyez, c'est aujourd'hui l'utilité marginale de la richesse, c'est la valeur anticipée pondérée par les facteurs d'actualisation classiques de l'utilité marginale de la richesse demain. Demain, dans quels états de la nature? Bien, le risque pinglossien, c'est que lorsque l'arbitrage intertemporel est fait par une dette non contingente sur laquelle je peux répudier mes engagements, alors les états de la nature vis-à-vis desquels je fais cet arbitrage ne portent que sur le sous-ensemble des états où je sais que je serai solvable. Je le redis en termes très simples. Si aujourd'hui j'emprunte 1 euro de plus, je peux consommer 1 euro de plus. Ça va réduire ma consommation demain. Demain quand? Demain, dans les états de la nature, où je vais rembourser ma dette. Parce que sinon, si je fais défaut, je peux emprunter 1, 2, 3, 1000 euros de plus, je m'en fiche, puisque je serai en situation de défaut. Donc je ne fais l'arbitrage entre la consommation aujourd'hui et la consommation demain que dans le sous-ensemble des états de la nature où je sais que je serai solvable. Ça, c'est un risque pinglossien. Pourquoi? Pinglossien, donc, on voit les choses, on voit que le meilleur des mondes. Parce que je ne regarde que les états de la nature où ça se passera bien. Oubliez la modélisation en temps continu que j'ai fait. Il y a deux états de la nature, un bon et un mauvais. Le mauvais, je fais défaut. Le bon, je sais que je paierai. Je ne fais l'arbitrage quand je m'endette qu'entre aujourd'hui pour consommer et demain si tout va bien. J'ignore rationnellement ces états de la nature où tout ira mal, puisque les décisions que j'ai prises en matière de dette aujourd'hui n'impacteront pas ma consommation dans le mauvais état de la nature, à la marge, puisque de toute façon, je serai en défaut. Donc, autant prendre plus de dettes, de toute façon, ça a le même coût dans ce modèle. Hein. Le coût est indifférent au niveau de la dette. Hein, puisque même quand les créanciers récupèrent lambda, c'est indépendamment du niveau de la dette, puisque de toute façon, vous êtes sous l'eau, et le niveau de la dette ne sera jamais recouvré. Donc, ça, c'est très important. C'est, je crois, une théorie très profonde de la crise, et dont on voit évidemment toute la traduction que ça peut avoir par rapport à la critique qui a été faite des effets de levier excessifs qui ont été pris par différents établissements financiers. Pour le dire encore une fois en des termes très simples, quand on bénéficie d'un effet de levier important, eh bien, on est amené à faire ce qu'on appelle parfois du gambling for resurrection, c'est-à-dire qu'on prend de la dette, mais en ignorant à partir d'un certain seuil les conséquences que ça aura en cas de défaut, et au fond en faisant comme si le seul état de la nature possible, probable, était le meilleur, et on ignore les conséquences que ça aura dans le cas du risque de défaut. Alors quand la résolution de la crise est inefficiente, le gamma dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait que la crise produit une perte de revenus mue, ça atténue cet effet pinglossien. On est toujours à ne considérer que les états de la nature favorables, mais tout se passe comme s'il y avait une taxe sur la dette qui correspond à ce risque de perdre une quantité mue, et ça atténue l'effet pinglossien dont je parle, même si l'essentiel est réalisé. Donc à ce point-ci, quand un pays est très endetté, si on suit cette théorie, il a tendance à se laisser glisser dans la pente d'une dette de plus en plus importante, puisque finalement, le sous-ensemble des états de la nature pertinents pour décider s'il va continuer de s'endetter ou pas, devient de plus en plus favorable. Au fur et à mesure que la dette augmente, le sous-ensemble des états de la nature pertinents par rapport auxquels on évalue le poids de s'endetter davantage devient de plus en plus optimiste. On devient de plus en plus pinglossien. Donc ici, on est a priori dans une idée où, quand on rentre dans un certain niveau de dette, il y a un mécanisme endogène qui se produit, déclenché par le pays lui-même, qui mène à toujours plus de dettes. Alors, ce problème, maintenant, va être mitigé par un autre risque. C'est le risque d'équilibre autoréalisateur. Donc, c'est celui que j'avais en tête au départ. Comment fonctionne un risque autoréalisateur? Ça a été étudié en littérature par toutes sortes de gens. Supposez que je veuille emprunter LT aujourd'hui. LT, milliards d'euros, et que des créanciers soient prêts à me le prêter à un taux R. Le montant R sans risque, le montant du remboursement que je devrais faire, LT facteur de 1 plus R, peut tout à fait dans cet exemple, en tout cas supposons que ce soit le cas, être tel que de fait je suis sans risque à ce taux-là, puisque le volume du remboursement sera inférieur au point à partir duquel je peux commencer à faire le calcul de savoir si je vais faire défaut ou pas. Donc assez bas pour que LT facteur de 1 plus R, c'est-à-dire le volume de la dette augmenté des intérêts, ne déclenche aucun risque de défaut à la période T plus 1. Maintenant, il est tout à fait possible qu'un autre équilibre se réalise aussi, et qui soit tel que 1 plus R sur 1 moins pi, qui est le taux d'intérêt ajusté pour le risque. Plaçons-nous ici dans le cas où lambda égale 0, donc il n'y a aucun recouvrement de la dette en cas de défaut, et donc le taux d'intérêt que les créanciers vont imposer s'il y a un risque est simplement 1 plus R sur 1 moins pi. Ils imposent, pour le dire autrement, une prime de risque pi, la probabilité de défaut, qui s'ajoute au taux d'intérêt sans risque. Il est tout à fait possible que, pour un certain niveau pi, le taux LT, la grandeur LT, augmenter de ces taux d'intérêt ajustés pour le risque, 1 plus R sur 1 moins pi, deviennent très importantes et vous mettent dans une zone où le défaut devient possible. Donc il y aura un équilibre autoréalisateur lorsque cette deuxième possibilité deviendra un équilibre. Alors, évidemment, tel que j'ai décrit, ce n'est pas forcément un équilibre, puisque le LT que vous aviez décidé d'emprunter au taux sans risque ne sera pas forcément le même si on vous propose un taux ajusté pour le risque. Mais à cause de l'effet pinglossien, ça peut aller en fait dans les deux sens. Vous pouvez dire, bon, ben, alors si c'est ça, j'emprunte deux fois plus, de toute façon je ne vous paierai pas. Donc on peut tout à fait imaginer des équilibres multiples dans lequel un pays est sans risque si on lui propose un taux d'intérêt sans risque et risqué si on lui propose un taux d'intérêt important ajusté pour le risque. Alors la contribution de ce papier avec Sébastien Villemot, c'est de démontrer que cette possibilité d'équilibre sans risque, elle dépend du fait que gamma, ce delta de richesse provoqué par la crise, soit positif. Si la crise produit une inefficience mesurée par ce terme gamma, c'est-à-dire la valeur de recouvrement à gauche et à droite de la crise. Si la crise produit une inefficience, alors le risque d'équilibre multiple est possible. Si gamma égale zéro, c'est-à-dire si on est dans le cas où la crise ne déclenche pas d'inefficience, les créanciers et les débiteurs peuvent s'entendre pour réaménager la dette sans provoquer de crise, alors le risque d'équilibre multiple, théoriquement au moins, est impossible. Quelle est l'intuition d'ailleurs ce résultat que je crois très, très puissant? Il est très simple. Les créanciers ne peuvent provoquer de crise autoréalisatrice que si le jugement qu'ils portent sur ce pays impacte le pays. L'exemple que je donne à mes élèves, c'est si j'ai une mauvaise opinion de vous et que ça impacte votre capacité à faire bien votre examen parce que je vous oblige à douter de vos propres capacités, c'est clair que je peux provoquer un risque autorisateur. Les profs pensent que je suis nul, et de fait, vous êtes nul. Si par contre, vous êtes totalement insensible au jugement que je peux avoir, et pour ce qu'il veut, je m'en fous, je fais ma copie, bah, la copie ne sera pas affectée par le jugement des marchés financiers, et donc, au moins théoriquement, le risque autoréalisateur ne peut pas avoir lieu. Donc, il est très important, pour comprendre la logique des risques autoréalisateurs, de comprendre ce que les marchés financiers ont comme impact sur la solvabilité du pays, au sens de ses fondamentaux, et du coup, apprécier ce risque de cette façon-là. Alors, lorsqu'un pays est soumis, donc ça c'est le point numéro un, très important, et évidemment ça plaide pour une résolution efficiente, ex post, des crises de défaut, l'idée selon laquelle il faut des crises qui fassent mal pour décourager le pays de faire défaut, est une idée fausse. Il faut une résolution coopérative, ce qui ne veut pas dire musclée le cas échéant, mais il faut une résolution coopérative des crises si on veut éviter ce risque d'emballement où on ne fait plus confiance à personne et on prévoit l'apocalypse parce que justement ce jugement peut déclencher cet apocalypse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important qui nous ramène au cas grec maintenant, et c'est une observation qui avait été faite par Collet et Kilo dans leur propre article sur les risques autorisateurs, c'est qu'à partir du moment où il y a des équilibres multiples, donc supposons que ce soit le cas, sans risque ça va, tu es sans risque, mais risqué, tu deviens risqué. Le pays va dépendre de sunspot, il va dépendre de la manière dont les marchés vont allouer ce pays entre ces deux équilibres. À ce moment-là, Colecchio démontre, mais c'est très intuitif, qu'un pays qui rentre dans une zone de danger, c'est-à-dire une zone dans laquelle on voit la possibilité d'équilibre multiple et on voit que tout va dépendre de certains sunspots qui vont sélectionner un équilibre ou un autre. À ce moment-là, le pays peut volontairement choisir de faire une politique que je vais appeler anti-panglossienne, c'est-à-dire au lieu de laisser filer sa dette parce qu'il se dit « de toute façon, je m'en fiche, maintenant je vais faire défaut », au contraire, il peut souhaiter sortir de ce que Colecchio appelle la zone de danger pour revenir à des niveaux de dette peut-être beaucoup plus bas pour justement annuler ce risque d'équilibre multiple. Je pense que c'est l'interprétation qui convient pour la Grèce, et je vais en déduire un certain nombre de choses en m'appuyant sur un travail qu'on avait fait il y a quelque temps avec Portes, d'une façon qui, on peut dire, un peu anticipe tout ça. Alors je reviens, voilà, c'est la seule petite manipulation.